7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle des mineurs délinquants. La France prépare une énième réforme pénale de sa justice avec une réforme de l'ordonnance de 1945 pour créer un code de la justice pénale des mineurs. Alors comment dire le droit à des jeunes qui se rendent coupables de vol ou d'agression dans un système judiciaire trop lent? Où placer le curseur entre protection, éducation, sanction? Plusieurs affaires de violence entre bandes rivales avec des agressions mortelles d'enfants ont été très médiatisées ces derniers temps. Ces phénomènes sont-ils par exemple en augmentation? On va en discuter avec nos invités dans le studio. Laurent Richard, juge des enfants depuis 22 ans, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes actuellement au tribunal de Versailles. Christophe Dahadouche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste et vous êtes spécialiste de la protection de l'enfance et du droit pénal des mineurs, formateur dans les institutions sociales, notamment la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Renaud Deyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien éducateur, directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse en Franche-Comté. Gérard Mauger, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes sociologue. Vous avez notamment publié une sociologie de la délinquance juvénile aux éditions La Découverte. Et chez vous, les voisins, la justice est-elle adapté aux enfants? Si vous vous sentez concerné par le sujet, vous pouvez bien évidemment nous appeler. Est-ce qu'il y a des mesures éducatives après la condamnation? Notre numéro de téléphone est le 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro WhatsApp. Vous pouvez nous laisser des messages. Je vous lis quelques messages postés sur les réseaux sociaux et bien évidemment vous pouvez commenter. Janvier est un auditeur qui nous écrit du Tchad, il nous dit « Les mineurs échappent bien souvent à la prison par des lois qui les protègent, mais ce n'est pas parce qu'ils sont mineurs qu'il faut les disculper de toute sanction. Il faut des sanctions éducatives parce que la répression ne résout rien non plus. Au Tchad, la délinquance des mineurs est un fléau qui prend de l'ampleur à cause du manque de soutien total des parents et de l'inaction de l'État dans ce domaine. » Il y a beaucoup d'opinions publiques dans le monde qui trouvent que la justice est trop faible avec les mineurs délinquants, tout en disant d'ailleurs qu'il faut des mesures d'éducation. Alors bon, ça peut sembler parfois un peu paradoxal. Donc je ne sais pas comment vous interprétez ça, Monsieur Oudeyer.
Oui, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de non-réponse à la délinquance des mineurs. Bien au contraire. Aujourd'hui, 93% des situations sont poursuivies et donnent lieu à des suites pénales. Alors effectivement, ces suites pénales ne sont pas forcément des sanctions et des pénalisations des mineurs.
Ça
et
peut
donc
être un simple rappel à la loi.
Alors ça peut être un rappel à la loi, mais ça peut être aussi des mesures éducatives qui viennent essayer de réinsérer le jeune et de comprendre ce qui s'est passé.
Je vous lis le message d'un proviseur au Sénégal, Landing. Il nous dit « Les enfants déscolarisés, abandonnés et ceux de la rue sont livrés à eux-mêmes. Ils bravent tous les interdits pour se nourrir. Ils sont la conséquence des échecs multiples des gouvernements et des familles. » Beaucoup d'auditeurs incriminent effectivement, pas seulement les familles, mais les pouvoirs publics. Mohamed aux Comores nous dit « Chez nous, aux Comores, si un membre de la société a commis une faute grave, on lui donne une correction sociale. On lui met un collier de coquilles d'escargot et on lui fait faire le tour du village avec des chants et des cris. Pour mettre fin à la délinquance des mineurs, chaque pays doit prendre des mesures socio-éducatives, prévention, répression, solidarité. » Voilà, vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 1 84 22 71 71. On a des coquilles d'escargot aussi chez nous. Ça vous fait sourire, mais...
On n'a pas de coquilles d'escargot, mais on a des réponses qui peuvent être... à l'excès judiciaire, la justice est devenue la voiture balai de nos lâchetés quotidiennes. C'est-à-dire que du coup, l'ensemble des incivilités d'année en année sont rentrées dans le code pénal, donnent lieu à des réponses judiciaires. Alors tout à l'heure, a été donné le chiffre de 93, on peut tendre progressivement à 100%
de réponses pénales.
Mais à un moment donné, il faut regarder sur quoi les professionnels de la justice sont amenés à intervenir. Parfois, c'est des rappels à la loi pour des choses qui, en d'autres temps, auraient donné lieu à du tirage d'oreilles par l'ensemble de la communauté éducative.
Et au collier d'escargot.
Exactement. Quand j'étais gamin, il y avait des gardiens d'immeubles. Aujourd'hui, il y a des caméras. Et le squat des halls d'immeubles est devenu un délit. C'est-à-dire que du coup, on a surpénalisé un certain nombre d'incivilités en donnant à la justice le soin de traiter un certain nombre de sujets qui devraient être en charge par l'ensemble de la collectivité. Je pense qu'il faut réhabiliter la sanction, mais réhabiliter la sanction, ça ne veut pas dire transformer la justice comme étant le seul lieu pouvant apporter des réponses. Et puis par ailleurs, sur le chiffre, simplement, la première remarque sur l'incarcération, il faut quand même redire qu'actuellement, il y a plus de 750 mineurs incarcérés. Donc le laxisme de la justice n'est pas saisissant. Il n'y a jamais eu autant, à un instant donné, de gamins en prison. Actuellement, 750 mineurs incarcérés.
Laurent Richard, en tant que juge des enfants, vous avez le sentiment aussi que vous arrivez sur votre bureau des affaires qui n'arrivaient pas autrefois, qui ne relèveraient pas de la judiciarisation.
Alors pour le juge des enfants, c'est particulier, puisque lui se situe tout au bout de la chaîne pénale, sachant que pour qu'il y ait intervention du juge des enfants, encore faut-il qu'il y ait un fait qui soit qualifié de crime ou délit. En fonction de cette qualification, le procureur a décidé des orientations. Donc ça peut être du rappel à la loi, ce qu'on appelle communément des alternatives aux poursuites, c'est-à-dire qui sont du ressort du procureur de la République et n'arrivent devant le juge des enfants que les actes qui sont parmi les plus graves ou les mineurs qui réitèrent ces faits. Maintenant, ceci dit, au niveau du juge des enfants, oui, on voit arriver, je suis parfois très étonné de voir arriver, je vais donner quand même quelques exemples mineurs, des vols de vélo. Qui peuvent arriver devant le juge des enfants, commis par des mineurs de 13 ans dans des communes. Alors, sûrement parce qu'il y a une forme, là aussi on en parlera peut-être tout au cours de cette émission.
De répétitivité ?
Pas forcément la répétition. Moi, j'ai déjà eu à juger des mineurs totalement inconnus pour des vols de vélo. Mais tout simplement parce que dans des petites communes, on peut se retrouver avec une forme de grande intolérance à tout ce qui est de l'ordre de la déviance. Et l'incantation suivante, le juge des enfants va tout régler. C'est-à-dire que, et je partage un peu votre avis...
Oui, mais alors attendez, on est bien d'accord, quand vous parlez de déviance, des citoyens, quels qu'ils soient, ne peuvent pas tolérer de se faire voler des vélos. Quelle devrait être la réponse pour que ça n'arrive pas sur les bureaux de la justice déjà totalement engorgés ?
Je vais tout de suite rassurer.
Cette délinquance juvénile. Ouais.
Alors, je vais vous rassurer sur un point aussi par rapport à la justice des mineurs. Non, les juges des enfants ne sont pas des laxistes par nature. La sanction, on la rappelle tout au long de nos cabinets, qu'on soit en protection de l'enfance ou en matière pénale, que la sanction fait partie de l'éducation d'un mineur. Pour autant, la sanction ne peut pas être du seul ressort du juge des enfants. Enfin, je vais donner quelques exemples. Je parlais du vol de vélo, c'est aussi les bagarres d'école. À l'adolescence ou à la préadolescence... plutôt les garçons.
Parce que dans ces cas-là, il y a des familles qui portent plainte, donc le chef d'établissement...
Et puis parfois l'éducation nationale, plutôt que d'utiliser ses propres ressources internes, je parle des ressources internes, ça peut être le conseil de discipline, qui est aussi une instance de régulation, on peut prononcer une sanction, on peut mettre un mineur face à ses responsabilités, on peut aussi en discuter avec les parents, rappeler le rôle des parents, on s'aperçoit, et je fais le constat que ce que je vais qualifier de bagarre d'école, avec beaucoup de guillemets, peut aussi arriver chez nous, sans qu'il y ait eu de passage devant le conseil de discipline. C'est parfois la justice pénale qui va être saisie la première et le conseil de discipline qui interviendra ultérieurement. On pourrait peut-être penser le contraire, d'abord peut-être le conseil de discipline et après la justice pénale.
Alors que comporte la réforme de la justice des mineurs dont on parle là ? Qu'est-ce que vous en attendez et en quoi l'ordonnance de 45 qui associe la protection à la sanction a besoin d'évoluer ? C'est quoi le problème aujourd'hui de la justice des mineurs en France, Renaud Oudéyer, vous qui êtes à la protection de la judiciaire et de la jeunesse Franche-Comté.
Peut-être une des premières questions qui se posent aujourd'hui, c'est la question du délai de jugement. On a parfois, alors le temps est important, hein, puisque on est dans une justice qui justement souhaite comprendre et accompagner, et donc ça demande du temps. Mais en même temps, pour que les sanctions soient compréhensibles, elles doivent arriver suffisamment rapidement. Donc je pense qu'un des enjeux de la réforme, c'est aussi de faire en sorte que ces jugements arrivent plus vite.
Concernant les délais, ça met combien de temps aujourd'hui ?
Alors c'est très variable. C'est variable selon les juridictions, c'est-à-dire selon leur taille, selon leur ressort. Quand je suis arrivé à Versailles, la première année devant les audiences du tribunal pour enfants, je n'ai jugé que des majeurs. Alors, mineurs au sens juridique du terme.
Ils étaient devenus majeurs entre-temps, c'est ça ?
Oui, la plupart du temps, on jugeait quasiment à 2-3 ans. Aujourd'hui, c'est un
2-3 ans de délai.
2-3 ans après, entre la date des faits et la date du jugement.
Ce délai, il est particulièrement préoccupant pour des mineurs. Expliquez-nous en quoi c'est important qu'il y ait une réponse d'autant plus rapide pour des mineurs, pas rapide au sens de la comparution immédiate bien évidemment, mais pourquoi à cet âge-là il faut que les jeunes perçoivent la culpabilité et la notion de ce qu'ils ont fait de manière plus rapide. Est-ce que d'ailleurs c'est une question ou pas? J'en sais rien.
Bah, écoutez, c'est une question, oui, bien sûr, elle peut se poser, mais j'aimerais revenir un petit peu en arrière par rapport à cette histoire de collier de coquilles d'escargot. Là, je trouve ça tout à fait intéressant. Parce qu'au fond, ça invite à relativiser la manière qu'on a aujourd'hui de traiter ce genre de problème, ce genre de pratique. Ça renvoie, je crois, de façon très générique, à un style éducatif dans une société donnée, et alors un style, c'est-à-dire à la fois ou bien explication, éducation au sens ordinaire, ou sanction. Sanction, c'est une des modalités d'éducation, mais ce n'est pas une modalité nécessaire, on peut faire autrement. Et puis il y a sanction et sanction, il y a un différent répertoire de sanctions. Il y a la question du délai des sanctions, celle qu'on vient d'aborder à l'instant. Puis il y a aussi la question de qui sanctionne, si, ou qui éduque. Bon, ça renvoie au fait que les instances éducatives, de socialisation, sont multiples. Il y a les familles d'abord, il y a l'école, c'est très très important l'école, il me semble. Hein. Et il y a aussi l'appareil judiciaire, qui est ici très représenté, qui est aussi une modalité particulière, mais une modalité spécifique et qui n'a rien de principal. Elle est dans une certaine mesure accessoire. Elle arrive quand on ne sait plus faire autrement. Voilà. Bon, c'est d'une certaine façon une modalité de l'échec, je dirais, celle-là. Parce qu'il y en a des tas d'autres en amont qui sont au principe, qui expliquent en quelque sorte ce qui fait que l'appareil judiciaire est amené à intervenir. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses avant.
Concernant les délais, pourquoi c'est important qu'il y ait une réponse.
Bah, si on comprend, si on met plus en rapport, pardon, excusez-moi, si on met plus en rapport le fait avec la sanction qui arrive 2 ans plus tard, on se dit qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Bon, du temps s'est écoulé. 2 ans, c'est beaucoup dans la vie d'un garçon qui a 14, 15, 16 ans, c'est beaucoup.
C'est ça, particulièrement pour les mineurs, ils évoluent très vite et du coup, si la justice intervient trop tardivement. Entre-temps, il a trouvé un boulot, il a une petite copine, il s'est inséré professionnellement. Et puis d'un seul coup, on lui ressort un plat très ancien de choses qui peuvent être complètement datées et qui n'ont plus de sens pour lui. Mais en même temps, il faut faire extrêmement attention à ne pas basculer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que du coup, passer d'une justice qui serait trop lente à une justice trop rapide. Il y a déjà dans l'ordonnance de 45 des procédures qui permettent de juger, à mon avis, très vite, voire trop vite, dans des délais de 10 jours. Pour un certain nombre de procédures. Et l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est que dans des effets...
c'est trop rapide pour un jeune.
Parce que, si vous voulez, il faut se rappeler que l'ordonnance de 45, elle a, sur la question des délais, elle pose 2 principes. Il faut d'abord évaluer la situation du gamin et lui permettre l'évolution.
Sa situation évaluation familiale.
Eh bien, exactement. Évaluation, évolution. L'évaluation, c'est permettre à des professionnels de voir quelle est la part de responsabilité qu'il a et quelle est la part qui relève du contexte socio-éducatif. Donc, s'il n'y a pas d'évaluation digne de ce nom, qu'on fait passer les gamins rapidement, le juge des enfants, lui, il ne sait pas s'il va apporter une réponse pénale ou éducative parce qu'il n'a aucune évaluation de la situation. Et puis, l'ordonnance de 45 posait le principe de l'évolution d'un accompagnement éducatif. Et si la justice intervient trop rapidement, on ne permet ni l'évaluation ni l'évolution.
En novembre dernier, les juges des enfants ont lancé un cri d'alarme pour dénoncer le manque de moyens. Il y a eu une tribune dans La Croix qui était signée par 183 juges des enfants. Vous en avez d'ailleurs été signataire, hein, Laurent Richard, en tant que juge des enfants. C'était un cri d'alarme concernant le manque de moyens pour protéger les mineurs. En quoi c'est lié à la délinquance des mineurs et à la sanction ?
Tout simplement, le constat qu'on peut faire, c'est qu'un certain nombre de mineurs délinquants sont eux-mêmes des mineurs qui vivent dans des milieux sociaux, je vais dire carencés, j'emploie un jargonnage un peu éducatif, carencés. Le constat, la majeure partie de ces mineurs délinquants se retrouvent dans des familles monoparentales. Avec accumulant un certain nombre de dysfonctionnements. Alors, ce que je dis là constitue pas, il n'y a pas une équation.
On a fait une émission sur les familles monoparentales hier avec une association qui nous a bien précisé les enfants de familles monoparentales ne deviennent pas délinquants.
C'est ce que je souhaitais préciser. Tous les mineurs qui sont en difficulté ne deviennent pas des mineurs délinquants. Mais la majeure partie des mineurs délinquants sont quand même des mineurs qui sont eux-mêmes en difficulté. Ce qui fait qu'il y a véritablement un lien entre protection de l'enfance et le contentieux des mineurs délinquants. Plus un mineur en situation compliquée est pris en charge dans le cadre de la protection de l'enfance, plus il y a de chances d'éviter des dérives sur le plan pénal.
Alors, voilà. Selon le ministère de la Justice, le nombre de mineurs suivis en protection de l'enfance a augmenté de 15% en 10 ans. Est-ce que les moyens ont suivi, tant du côté du ministère de la Justice que du côté des départements d'ailleurs, pour ce qui est de la réponse sociale?
Peut-être ce qu'on peut redire, c'est quand même que aujourd'hui, près de 40% des jeunes qui sont suivis par la protection judiciaire de la jeunesse le sont dans un cadre civil. Hein. Donc ça veut dire que
dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Donc dans le cadre de la protection de l'enfance, de l'enfance en danger. Hein, c'est-à-dire qu'à la fois la particularité du droit français, c'est que le juge des enfants est compétent à la fois pour les mineurs délinquants, mais il est compétent aussi pour les mineurs en danger.
Maltraités. Voilà.
Et des mineurs maltraités, par exemple.
Hein.
Voilà. Et donc les services de la PJJ, secteur public et le secteur associatif habilité, interviennent aussi au titre civil, même si en France, aujourd'hui, c'est essentiellement les conseils départementaux qui s'occupent des mineurs en danger. Mais effectivement, il y a un lien très fort et qu'il faut continuer à maintenir et à développer entre les problématiques de protection de l'enfance, d'enfance en danger, et les problématiques de mineurs délinquants. Comme il a été dit, un mineur délinquant, c'est très souvent un mineur en danger.
Qui a été en danger.
Oui, évidemment. Et de fait, on le vérifie. C'est-à-dire que dans les jeunes dont on s'occupe à la protection judiciaire de la jeunesse, beaucoup d'entre eux ont fait l'objet ou font encore l'objet d'un accompagnement au titre de la protection de l'enfance.
Un auditeur nous appelle, je vais redonner le numéro de téléphone du standard, c'est le 33 1 84 22 71 71 si vous souhaitez participer à la discussion sur les mineurs délinquants. Rachid nous appelle de région parisienne. Bonjour Rachid.
Bonjour madame.
Vous êtes ancien éducateur spécialisé dans le 9-3 en Seine-Saint-Denis, c'est bien cela?
Exactement.
Oui, on vous écoute.
Mais en fait, le problème, j'écoutais un petit peu le tour de table qui s'est fait, le début de tour de table.
Oui.
Le problème, madame, c'est que on nous a beaucoup parlé de grandes villes comme Aulnay-sous-Bois, Sevran, on va dire Sarcelles, des villes un peu qui ont été citées dans les médias. Mais en fait, dans tout le 93, vous prenez le 94, j'ai tourné un peu moi dans les quartiers, c'est qu'on rencontre ça partout et on ne le dit pas. Et des fois, les jeunes, ils sont tout seuls, ils ont 11 ans, 12 ans, ça commence pas qu'à l'adolescence.
Qu'est-ce qu'on dit pas, en fait?
Qu'est-ce qu'on dit pas? C'est que, moi, je trouve qu'il y a des choses qu'on cache. Mais en fait, on dit pas que dans tel quartier, par exemple, on va dire à Bagnolet, parce que moi, je suis natif de Bagnolet, que sur 1000 ados, je vais vous dire comme ça, 1000 ados, eh ben, il y en a déjà 300 qui sont dans la rue. Qu'ils ont fugué, que personne ne dit rien. Ça veut dire que si l'ado, déjà a...
Vous voulez dire des adolescents qui sont domiciliés,
qui sont domiciliés, mais
qui ne sont plus,
madame,
sous la protection d'adultes.
Merci beaucoup. Eh bien, ils sont voués à eux-mêmes. Il n'y a plus, vous savez, il y avait des quartiers où on mettait des grands frères dans la rue. Eh bien, ils ont fait quoi, le département? Là, on reparle département, commune, région. Ils ont arrêté de financer ces plans-là.
Vous faites allusion à des associations. Hein. C'est les grands frères, c'était des associations qui étaient, entre autres, financées par l'État.
Merci. Ils ont arrêté de faire ce travail-là, de financer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les jeunes, ils ont été voués à eux-mêmes. Et souvent, je rencontrais des jeunes qui me disaient « Oui, mais nous, on nous a laissés, on s'en fout de nous, c'est tout le temps les autres, pas nous.
Ouais. » Mais Rachid, vous semblez dire que la situation est devenue préoccupante, qu'il y a plus de jeunes qu'autrefois qui sont donc complètement livrés à eux-mêmes. Et en même temps, la réponse judiciaire, on le voit dans les chiffres, alors je ne sais pas, mais on a l'impression que les condamnations sont stables, que le ministère de la Justice nous dit « Non, rendormez-vous, rien de particulier à signaler. »
C'est pas vrai, madame, parce que quand ils sortent de prison, c'est encore pire. Parce qu'on les met, on va les mettre en prison, il y en a quelques-uns qui échappent pas. Il y en a qui sont sous la protection de l'enfance, protection mineure, mais il y en a, ils vont aller en prison, parce que c'est grave le fait qu'ils ont fait. Mais là, quand il va ressortir, c'est que même en prison, le travail, il n'est pas fait.
Et non plus à la sortie. Merci Rachid de nous avoir appelé. Qui veut réagir?
Juste un petit mot. Ce que Rachid évoque, c'est la disparition progressive de la prévention spécialisée, c'est-à-dire des éducateurs de rue. Il y a 2 ans, une 20aine de départements ont décidé d'interrompre la prévention spécialisée. Sur votre département, Monsieur Richard, le département du 78 a déconventionné 11 associations qui faisaient un travail de rue de prévention spécialisée. Ça, c'est une vraie question, parce que quand l'aide sociale à l'enfance intervient ou que la PJJ intervient, c'est déjà trop tard.
Désengagement des départements parce que pas très rentable électoralement?
Oui, mais parce que...
Parce qu'actuellement, les départements sont confrontés aussi à des contraintes financières qui sont extrêmement lourdes. Enfin, la majeure partie des dépenses sociales en France qu'on aborde le RSA, la prise en charge des personnes âgées ou les publics des enfants en difficulté, le financement se fait par les départements. Ce qui est légitime parfaitement quand on est en plein débat sur la territorialisation du maillage administratif français, ça légitime totalement la présence du département. La région est trop grande, la commune trop petite, le département étant l'interlocuteur, j'allais dire la taille idéale pour traiter un certain nombre de ces contentieux. Ouais. Sauf que ça passe par des moyens. Et les départements sont confrontés à des charges de plus en plus grandes et des moyens financiers qui sont de plus en plus contraints.
Et en même temps, comment expliquez-vous que la justice dit depuis 30 ans le nombre de condamnés est stable, quelle que soit la tranche d'âge, et on a un éducateur qui nous appelle et qui nous dit c'est catastrophique sur le terrain, ce qu'on voit, ce que commettent les jeunes.
Je pense qu'effectivement, ça renvoie au collier de perles de tout à l'heure, ou de coquillage,
de coquille d'escargot. Non mais oui, c'est très fort symboliquement.
La question, c'est effectivement celle des régulations sociales qui existent en amont de l'intervention judiciaire.
Le tissu associatif,
l'éducation nationale, mais aussi la vie de quartier. On parlait tout à l'heure des gardiens d'immeubles. Et moi, je veux souligner dans le témoignage qui a été fait par Rachid le fait que je partage le constat, c'est-à-dire que je crois qu'il faut qu'on se dise qu'on a effectivement une partie des jeunes, et parfois de très jeunes, qui sont très tôt, finalement, en rupture sociale, en rupture de lien. On voit des préadolescents qui, parfois, sont pas à l'école comme ils le devraient, et que c'est effectivement quelque chose qui est inquiétant. Alors, je pense que, bien sûr, il faut qu'on soutienne l'intervention associative, et on a parlé de la prévention spécialisée dans les quartiers, c'est un élément tout à fait essentiel. Mais je veux réagir aussi sur la question des grands frères, qui a été cité. Parce que les grands frères, c'était quelque chose de particulier. C'est-à-dire, c'était l'idée d'aller chercher les jeunes qui sont eux-mêmes issus du quartier pour accompagner les plus petits.
L'éducation entre pères.
Et, ouais. Oui, l'éducation entre pères. Et ça, franchement, ça n'a pas été une réussite parce que ce dont ont besoin ces préadolescents ou ces adolescents dans les quartiers, c'est d'être intégrés aussi dans les institutions de la République. Et donc, ils ont besoin aussi d'institutions...
Et de plus de relations avec les adultes également.
Oui, c'est-à-dire avec des adultes et des adultes. Aussi avec les adultes, avec les enseignants, avec les gardiens d'immeubles, avec les éducateurs spécialisés, avec les associations qui interviennent dans les quartiers, avec ce qui fait la vie sociale des quartiers.
Alors vous restez avec nous, on va reparler de ces adolescents, de ces mineurs délinquants. Est-ce qu'ils sont vraiment plus violents, plus jeunes, comme semblent le montrer certains faits divers, notamment des agressions mortelles entre RICS? On en discute, ça sera juste après IAM. Petit frère n'a qu'un souhait de devenir grand. C'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est éclater les tranches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur Blanche-Neige et les 7 nains. Maintenant les nains, on giclait Blanche-Neige et tape éclate des types claques dans Mortal Kombat. À 13 ans, il aime déjà l'argent, avide mais ses poches sont parides. Alors on fait le caïd dans des booms qui sont désormais des soirées. Plus de sirop dessert, petit frère de tes pierres. Je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ses cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures. Petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
qui ferait rêve de bagnole, de fringues et de thunes, de réputation de dur. Pour tout ça, il volerait la lune. Il collectionne les méfaits sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait, de donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames dames de l'Afrique. Plus de cartables, il ne saurait pas quoi en faire. Il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver. Petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier. Pensez au butin qu'il va amasser.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
C'est petit frère, Ayam, chez 7 milliards de voisins sur RFI. On est en direct du lundi au vendredi. Aujourd'hui, nous parlons des mineurs délinquants. Vous pouvez bien sûr nous appeler si vous vous sentez concerné par le sujet ou que vous soyez dans le monde. 33 1 84 22 71 71. Les opinions publiques, d'ailleurs, je le disais en début d'émission, mais ne sont pas toujours claires quant à leurs aspirations en tant que citoyens par rapport à ce qu'on aimerait que, que deviennent ces mineurs délinquants et par rapport à ce qu'on attend de la justice. On a tendance, les opinions publiques ont tendance à dire que la justice est trop faible par rapport aux mineurs et en même temps des mineurs qui ne sont pas suffisamment encadrés. Alors comment placer le curseur? L'ordonnance de 1945 en France a cette spécificité par rapport à d'autres pays du monde d'assurer à la fois protection, éducation et sanctions dans une même enveloppe, dans une même vision. Aujourd'hui, qui sont ces mineurs délinquants? Est-ce qu'ils sont, comme semblent le dire les faits divers et d'ailleurs la police, plus violents et plus jeunes? Qui veut répondre à cette question? Parce qu'on a des chiffres maintenant.
Oui, je veux bien dire quelques mots là-dessus. Bon, c'est vrai que c'est une ritournelle médiatique, hein, de plus en plus jeune et de plus en plus violent. Bon, voilà, je sais pas où on en est. Si c'était vrai, où on en serait aujourd'hui, quoi. Ce serait vraiment terrible, quoi. En fait, c'est un phénomène très très ancien, difficile à cerner, à mesurer de façon précise. D'ailleurs, c'est pas du tout simple, en fait. Hein, la question des chiffres de la délinquance, c'est un véritable problème, un problème sociologique compliqué pour comprendre qu'est-ce que ça mesure. Au juste, c'est pas tout à fait simple de l'évaluer. Moi, j'aurais tendance à dire, à travers les enquêtes que j'ai pu faire à 30 ans de distance...
En tant que sociologue,
hein. Oui, en tant que sociologue, dans le 9-3, entre autres, voilà. Comment dire, de plus en plus jeunes. Non, moi, ce qui me frappe, ça serait plutôt de plus en plus vieux. Voilà, je dirais que les membres des bandes, comme on dit, quoi, ils y stationnent certainement beaucoup plus longtemps qu'autrefois. Hein. Tout simplement parce que l'accès à un emploi stabilisé, voilà, qui est la fin, en général, qui marque la fin d'une carrière délinquante, est de plus en plus problématique, de plus en plus difficile pour ceux dont il s'agit, c'est-à-dire qu'ils sont sans qualification, comme on dit, sans ressources scolaires, bon, inemployables, comme on dit aussi, inemployables, vous êtes sortis de l'école, de la famille, vous n'y avez plus vraiment votre place, que si vous vous faites, quoi. Bon, c'est un léger problème, quoi. Et quand ça dure, le stationnement dans ces bandes au bas des tours se prolonge, inévitablement. Donc je dirais, j'aurais tendance à dire certainement ce qui me frappe le plus, c'est de plus en plus vieux. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas aussi de plus en plus jeune.
Hein,
c'est
possible. Commencer plus jeune,
on
oui.
peut aussi commencer plus jeune, mais en tout cas, on finit plus tard, ça me semble évident. Quant à avoir commencé plus jeune, j'ai un peu des doutes aussi, parce que finalement, la scolarisation s'est prolongée, et que le cadre scolaire, même si beaucoup ont déserté l'école, fait que, grosso modo, on y va quand même un peu, quoi. Bon, un minimum en tout cas.
La police dit que les mineurs représentent une mise en cause sur trois aujourd'hui.
11,7%. Des mises en cause, les mineurs, c'est-à-dire que c'est effectivement quelque chose qui est important, mais même si effectivement la délinquance des mineurs inquiète particulièrement et donc du coup prend une place dans nos représentations qui est importante, dans la réalité, ça reste quand même une part marginale
de
la délinquance.
Quand les policiers témoignent, c'est pas les chiffres qu'ils donnent. Alors c'est vrai que sur la délinquance des mineurs, on pourrait faire des batailles de chiffres pendant des heures.
Mais oui. Si vous interrogez Alliance, Synergie ou autre pour avoir une analyse de la délinquance des mineurs, les syndicats de policiers, c'est sûr que vous allez avoir une lecture du sujet autre que celle que la sociologie peut éclairer. Il y a trois catégories de chiffres. Il y a les chiffres de la police, il y a les chiffres de la justice, et puis il y a aussi... Quand les sociologues interrogent les jeunes eux-mêmes sur est-ce qu'ils passent à l'acte, à quel moment, etc., etc. Et là, on a d'autres réalités. On ne peut pas simplement lire ça à l'aune des chiffres de la police, parce que les chiffres de la police, c'est la pression qui est faite sur eux pour contrôle d'identité, intervention, etc., etc. Donc, évidemment.
Et vous, Laurent Richard, en tant que juge des enfants, est-ce que vous voyez des cas de mineurs délinquants plus jeunes, plus violents? Sur 22 ans de carrière.
En 22 ans, plus jeune, et puis en étant passé sur des ressorts ruraux et des ressorts plus urbains comme les Yvelines, à titre personnel, moi, je n'ai pas vu de réelle évolution. L'évolution que j'ai vue, peut-être, c'est beaucoup plus de mineurs à troubles du comportement. Mais sachant, étant redit, que le juge des enfants, lui, est tout au bout de la chaîne pénale. Donc, n'a affaire qu'aux situations les plus complexes, a priori. Mais non, des mineurs de plus en plus en difficulté d'un point de vue psychique, oui, ça c'est une réalité dont on peut les qualifier d'incasables. Enfin, ce sont des mineurs dont on ne sait plus quoi faire, oui. Et qui terminent chez nous. Quand je dis chez nous, c'est tout simplement à la PJJ, auprès de l'administration pénitentiaire,
oui.
Et puis en incarcération. Mais tout simplement, ça reflète aussi un certain nombre de difficultés au niveau de toute la chaîne éducative, au niveau de la chaîne des soins. Aussi, on s'aperçoit que le monde de la pédopsychiatrie est un monde très très en difficulté et qu'en dernier recours, sur des mineurs qui vont très très mal, qui peuvent passer à l'acte, c'est la justice pénale qui va être, j'allais dire, la dernière réponse.
Mais peut-être ce qu'on peut souligner aussi, c'est que moi je ne pense pas qu'il y ait plus de mineurs délinquants, ni qu'ils soient plus jeunes. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a une partie des mineurs délinquants qui, pour certains, vont commettre des délits à répétition. C'est qu'une partie, moins de 20% des jeunes reviennent devant le juge des enfants. Mais c'est vrai que ces jeunes-là, qui sont minoritaires parmi les mineurs délinquants, peut-être mettre les professionnels particulièrement en difficulté. Et les professionnels...
Parce qu'il n'y a pas de solution. En mars dernier, à Vaux-en-Velin, la police a arrêté un adolescent qui avait déjà 79 affaires judiciaires
à
16 ans.
Parce que des jeunes qui sont, pour certains, en rupture de lien avec le monde des adultes.
C'est ce que nous disait notre auditeur éducateur qui nous a appelé tout à l'heure.
Voilà, absolument.
Et puis revenons alors sur... effectivement, on entend ces mineurs avec 76 procédures derrière eux. On a déjà vu ce que représentent les procédures aussi, entre le vol du vélo ou autre. Dans chaque cabinet, après 22 ans comme juge des enfants, pour moi, il y a une constante dans les cabinets.
Les principaux motifs de condamnation des mineurs chez vous, c'est quoi?
Alors devant le tribunal pour enfants, on est sur des actes, les actes qui sont à l'extrême, c'est-à-dire on a majoritairement des actes de violence, des infractions à la législation sur les stupéfiants, mais quand on revient sur les chiffres, tels qu'ils ont
été analysés... Trafic de drogue.
Oui, mais quand on revient sur les chiffres, alors que pour le juge des enfants et les tribunaux pour enfants, l'essentiel ou la majeure partie des mineurs condamnés sont des mineurs condamnés pour des délits graves, tels que des violences. Quand on ramène au chiffre général de la délinquance des mineurs, 75% des infractions qui sont poursuivies sont des infractions non violentes. Ça veut dire...
Dégradation de biens matériels,
des vols, des cambriolages, donc sans violence.
Est-ce qu'il y a à l'heure actuelle un phénomène de bande? On a vu ces derniers temps, à l'automne, des faits divers particulièrement inquiétants. Aboubacar, un jeune de Bagnolet de 13 ans qui a succombé à ses blessures à l'hôpital après avoir pris part à une rixe au Lila, donc on est en Seine-Saint-Denis. Deux autres adolescents qui sont décédés fin octobre dans des conditions similaires. Rixe entre bandes, 20e arrondissement, proche Bagnolet. Faudy, un adolescent de 17 ans assassiné près de la gare de RER de Sarcelles après avoir été frappé à la tête avec un bâton. Est-ce qu'il y a là un phénomène préoccupant pour vous ou pas ?
Et en tout cas, fort ancien. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment pas une nouveauté. Moi, j'ai suivi un petit peu l'affaire, comme ça, rétrospectivement, à travers les écrits disponibles sur les blousons noirs des années 50. Et les 50, de quoi on parle à propos des blousons noirs, des phénomènes de bande, des jeunes.
Sauf qu'il y a des vidéos qui circulent maintenant sur Internet, que ça se passe en bas des immeubles, que les gens sont effrayés, effondrés.
Ah bah oui, mais enfin à l'époque aussi, vous regardez Paris Match à l'époque, c'est tout à fait spectaculaire. C'est ce qu'on raconte à cette époque-là, c'est tout à fait spectaculaire. Quand je commence à enquêter sur ce monde-là, dans la deuxième moitié des années 70, on parle des loupards à cette époque-là, ils ont tant de noms. Les Apaches, c'est avant, c'est le début du siècle, ça c'est Michel Perrault, c'est le début du 20e siècle. Bon, voilà, on peut remonter encore bien avant, les rixes dans les villages.
Est-ce que la réponse pénale à l'heure actuelle pour ces mineurs qui sont reconnus coupables d'assassinat dans des rixes, est-ce que la réponse pénale est suffisante?
La réponse pénale, certains sont incarcérés. Je le dis tel que c'est. La réalité, contrairement à ce qu'on peut penser du fonctionnement des juridictions pénales pour mineurs, les tribunaux pour enfants incarcèrent. On a d'ailleurs une hausse des incarcérations tout au long de ces 30 dernières années.
Y compris une majorité de mineurs incarcérés, ils sont au titre de la préventive, c'est-à-dire avant jugement. Ouais. Quand on parle du laxisme de la justice des mineurs, il faut rappeler que la grande majorité des mineurs actuellement incarcérés sont dans l'attente d'un jugement.
Et comme les attentes de jugement ont tendance à se rallonger...
Oui, alors, juste après, ça dépend. Enfin, quand on parle des délais de la justice, effectivement, la justice des mineurs, ça peut être problématique, ça n'est pas une constante. On a certaines juridictions, un certain nombre de juridictions fonctionnent malgré tout en essayant de réduire ces délais de jugement. Enfin, j'avais expliqué qu'il y a 6 ans, on était arrivé à juger des mineurs 3 ans après les faits. On arrive globalement, au jour d'aujourd'hui, à les juger 1 an après, voire 6 mois après. Donc, mais c'est aussi, ça renvoie à la question des moyens.
Alors, vous nous le disiez, vous voyez passer les affaires qui arrive au bout en tant que juge des enfants, donc des affaires graves, bien que vous nous ayez cité quand même des affaires de vol de vélo qui, légitimement, ne devraient pas arriver jusqu'en justice et devraient se régler par des canaux de citoyenneté, de prise en charge et de responsabilisation de la société. Néanmoins, il y a tout un arsenal avant d'arriver à la condamnation et à de la prison avec sursis ou ferme. Il y a des peines d'intérêt général. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? D'autres pays l'utilisent davantage que la France. On a régulièrement eu des politiques qui nous disaient on voudrait davantage maintenant utiliser les peines d'intérêt général. C'est le cas de ce gouvernement. Est-ce que vraiment c'est dans les tuyaux? Et qu'est-ce qu'on peut en attendre de ces peines d'intérêt général? Pourquoi ça semble si compliqué? A priori, c'est moins cher, moins coûteux d'ailleurs que la journée d'incarcération, si je ne me trompe pas, hein, parce que ça coûte très cher à la société, la journée d'incarcération. Pourquoi ce n'est pas plus pratiqué? Est-ce que ce n'est pas efficace?
Peut-être alors, d'abord, redire que le travail d'intérêt général est utilisé concernant les mineurs. Hein, donc les mineurs peuvent être condamnés à des travaux d'intérêt généraux. Il y a deux limites par rapport au travail d'intérêt général. Alors d'abord, c'est de trouver des lieux puissent accueillir ces mineurs, puisque un travail d'intérêt général, ça s'exécute dans une collectivité publique. Hein, donc il faut trouver des lieux, des services, des espaces verts d'une mairie, par exemple, qui peut accueillir un jeune.
C'est-à-dire, en gros, faire un travail de jardinage.
Voilà, c'est-à-dire que le jeune va aller avec l'équipe des espaces verts et puis va travailler, suivant la condamnation qui aura été prononcée par le magistrat, pendant 1 semaine ou pendant 2 semaines, avec l'équipe du service des espaces verts. Et puis la deuxième difficulté, c'est aussi pour les mineurs, c'est que on peut, quand on parlait des mineurs là, qui sont dans les bandes tout à l'heure, on peut avoir affaire à des mineurs qui sont désocialisés depuis de longue date et pour lesquels ça peut être
On est d'accord qu'un travail d'intérêt général, une peine d'intérêt général, ça ne concerne pas une affaire de meurtre. Hein, on est bien d'accord, il ne faut pas tout mélanger.
Ah oui, on ne va pas prononcer un travail d'intérêt général pour un meurtre.
On est d'accord, ça concerne des délits mineurs.
Alors, non, parce que le travail d'intérêt général est une peine. C'est une peine qui peut être prononcée pour des mineurs de 16 à 18 ans, puisque ça suppose que les mineurs aient 16 ans, puissent travailler. Donc ça s'inscrit dans un arsenal pénal qui est déjà suffisamment haut.
Maintenant, ça veut dire que ça fait l'objet d'une condamnation judiciaire, on est bien d'accord.
Par le tribunal pour enfants. Et puis, alors, si on étend largement...
Pourquoi ce n'est pas plus utilisé?
Je voudrais dire, le ministère de la Justice, alors l'administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse développe justement actuellement une plateforme pour recenser au niveau national, recenser les lieux de TIGE et pour mieux mobiliser l'ensemble des lieux et l'ensemble des institutions qui peuvent accueillir des
jeunes effectuant sa peine d'intérêt général.
Et puis étant rajouté peut-être, puisque là on aborde la notion de travail d'intérêt général au sens étroit du terme, donc dans le sens pénal, on a la mesure de réparation qui s'y rapproche. La mesure de réparation qui n'est pas une peine, qui est une sanction éducative, qui globalement peut aussi se retrouver...
Par exemple, une
réparation éducative, ça peut être travailler dans une association. Alors les heures ne seront pas les mêmes et la sanction de la réparation non faite ne sera pas la même que pour celle d'un travail d'intérêt général, mais ça s'en rapproche, j'allais dire, dans l'esprit. Les modalités ne seront pas les mêmes, mais l'état d'esprit est exactement le même. C'est de permettre à un jeune auquel est reproché une infraction pénale, puisque ça peut se faire avant le jugement ou après le jugement, de réfléchir aussi aux conséquences des agissements et puis tout simplement de se réinsérer. Pas se réinsérer socialement,
est-ce qu'on a les moyens
se réinsérer dans
la
société.
Pour utiliser davantage à la fois les réparations, les peines d'intérêt général, est-ce qu'on a suffisamment d'éducateurs? Est-ce qu'on a suffisamment de...
Sourire. Sur la mesure de réparation.
C'est la question de l'PJ.
Sur la mesure de réparation, moi, je voudrais insister quand même, parce qu'on disait tout à l'heure l'importance qu'il y avait que la société civile se mobilise dans l'éducation des jeunes. Et par exemple, la mesure de réparation va vraiment dans ce sens-là, parce que l'idée, c'est d'aller chercher des acteurs de la société civile pour accueillir des jeunes et pour leur permettre d'exercer une action citoyenne, finalement, d'exercer leur citoyenneté, par exemple, en participant à des actions qui ont un intérêt collectif.
Je vais vous poser une question naïve à vous, en tant que juge des enfants, Laurent Richard. Est-ce que parfois, vous aimeriez prononcer une peine de réparation ou une peine d'intérêt général? Vous n'allez pas le faire parce que vous savez qu'on ne peut pas la mettre en œuvre, faute de personnel, ou pas? Ma question est peut-être très naïve, hein.
En l'état actuel, dans le ressort dans lequel je me trouve, non, c'est pas une question qui se pose. Maintenant, on sait que les délais, par exemple, en matière de réparation, la réparation doit être faite dans les 6 mois du moment où elle est prononcée. Les 6 mois sont actuellement pas tenus.
Donc,
on a parfois des mesures de réparation. Pour autant, ça ne contraint pas la réponse pénale. Si j'estime qu'une mesure de réparation est nécessaire, je la prononcerai. Mais je saurai qu'elle ne sera pas effectuée dans le délai de 6 mois. Ça, c'est la contrainte avec laquelle on doit faire.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On parle des mineurs délinquants. Et bien sûr, vous pouvez réagir. Un auditeur nous appelle de Gennevilliers, je crois. Bonjour Mamadou.
Oui, bonjour.
Mamadou, vous avez effectué des peines de prison?
Oui, ouais. En mineur à l'EPM de Porcheville.
Oui.
J'ai fait aussi le CJD de Curie-Mérogis. Mais après, moi, le premier truc que je voulais dire avant que j'oublie déjà, en fait, on accorde beaucoup, on oublie en fait l'importance de l'environnement. En fait, moi, à cette époque-là, j'étais un produit de mon environnement. C'est-à-dire, autour de moi, il n'y avait que des barres d'immeubles, que des gens qui sont destinés à devenir, entre guillemets, des voyous. Et on est devenus des voyous. Donc, c'est-à-dire, si, par exemple, je prends un exemple tout bête. Là, j'ai deux cousins. J'ai un cousin qui habite à Boulogne-Billancourt, dans le 92, dans un HLM, mais HLM propre. C'est-à-dire, ce n'est pas une cité. Et un autre qui habite dans le 18e. Oui. Il y en a un qui est un voyou, l'autre il fait des crises d'adolescence. Vous voyez, l'environnement, il joue beaucoup dans la suite, en fait. Et moi, dans mon histoire en elle-même, j'ai été attrapé pour un vol à main armée, j'ai fait le PM de Porcheville. J'ai eu la chance, moi, durant toute cette période de délinquance, de suivre des formations, de toujours m'instruire, de toujours chercher à m'en sortir. Malgré que je faisais ci ou ça, j'ai toujours cherché à faire quelque chose.
Vous avez passé combien de temps en prison au total? Vous avez 25 ans aujourd'hui, Mamadou.
Au total, j'ai fait la première peine, j'ai fait 9 mois de prison en mandat de dépôt. Je suis ressorti, j'étais interdit de la région, on m'a ramené dans une autre région. J'ai continué ma délinquance, j'étais incarcéré aussi là-bas, où j'ai fait une peine de 10 mois et une troisième peine où j'ai été condamné à 15 mois de prison. Et au cours de ma troisième peine, en fait, en discutant, parce que je suis quelqu'un de mature, assez mature, donc en discutant avec les anciens dans la promenade, je me suis rendu compte, en fait, qu'ils ont fait des trucs de fous, c'est des gros voyous, mais ils n'ont plus rien. Donc ils sont là à me dire, bon, c'est mieux d'arrêter, c'est mieux de faire ci, de me faire ça. Et j'ai compris, en fait, qu'ils avaient raison. Donc j'ai eu un déclic et je me suis dit, si je sors de cette peine-là, c'est fini pour moi. Parce que j'étais dans une grosse affaire et je me disais, ça y est, c'est fini pour moi. Mais en fait, non. La juge d'instruction, elle m'a laissé la chance de m'en sortir. Elle m'a libéré sous caution et j'étais transféré en région parisienne où j'étais libre sous contrôle judiciaire. Au bout de 3 jours, en cherchant du travail, j'ai trouvé du travail, un CDI. Ensuite, j'ai passé mon permis de conduire. Je me suis réorienté dans un métier qui me convenait plus.
Ça a été ça le déclic, en fait. Ça a été l'insertion professionnelle.
L'insertion professionnelle. Je me suis marié. J'ai 2 enfants maintenant. Je travaille. J'ai réussi ma réorientation. J'ai fait des formations qui me permettent aujourd'hui d'avoir un permis super lourd. Un métier qui est sous tension, donc c'est-à-dire les salaires ils augmentent. Et aujourd'hui, je suis bien inséré. Vous voyez, et grâce à toutes les formations que j'ai faites, à tout mon savoir-faire, je peux même faire un DAU et intégrer une université et faire un master ou une licence.
Malgré le fait que vous ayez un casier judiciaire, que vous ayez...
que j'ai eu un casier judiciaire. Je peux aujourd'hui faire mon DAEB, rentrer dans une université, faire une licence et faire un master. Vous voyez, et même pour effacer mon casier judiciaire, je peux faire une formation de par exemple VTC, un exemple, un VTC,
chauffeur,
où on va m'interdire de me donner la carte parce que j'ai un casier judiciaire et je demande l'effacement, on efface mon casier judiciaire. Vous voyez, parce que j'ai fait ce travail-là d'être formé, d'avoir un savoir-faire, de transformer toute ma vie. Vous voyez, et ça, les jeunes d'aujourd'hui, ils se rendent pas compte de tout ça. C'est-à-dire, ils tournent en rond. Il y a des gens aujourd'hui qui ont mon âge.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Mamadou, en quelques mots aux professionnels de la justice qui sont dans le studio et qui vous écoutent avec intérêt?
J'ai envie de dire, c'est d'investir dans la formation. Un jeune aujourd'hui qui est désœuvré, qui fait n'importe quoi, si on l'intéresse dans un métier et il voit qu'il a un salaire, etc., je pense qu'il va sortir de cette cité-là. Mais si dans cette cité, il ne sait rien faire. C'est-à-dire, là, il y a des gens aujourd'hui, je les vois, ils me disent, c'est cool, franchement, on est fiers de toi, mais maintenant, on est comme toi, t'étais avant. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas eu cette chance-là, d'avoir cette formation, d'avoir quelque chose, de savoir faire quelque chose. Mais ils sont condamnés, en fait. Je veux pas être péjoratif en disant, ouais, ils sont condamnés à toucher le SMIC, mais ils sont condamnés à faire ça, en fait, à faire des petits métiers de gauche à droite, d'avoir des CDD, de pas travailler dans des métiers qui sont recherchés ou des métiers qui leur permettraient de travailler et de nourrir leur famille.
Mamadou, merci en tout cas de nous avoir appelé pour nous raconter votre histoire en direct. Hein. Merci beaucoup. L'exemple de Mamadou, est-ce que, vous, évidemment que vous en avez autour de vous, quand vous nous avez cité des cas qui sont très complexes, où vous ne parvenez pas à trouver une réponse, à la fois une réponse judiciaire, à la fois une réponse sociale, mais Christophe Dahadouche, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des raisons d'espérer quand on entend ce type de jeunes, ou est-ce qu'on est encore très très loin en termes de moyens, en termes d'infrastructures, en termes de compréhension aussi politique des problèmes, d'avancer sur ces dossiers?
Ce qui est rassurant dans le témoignage qu'on vient d'entendre, c'est que évidemment on a là les sorties de délinquance. Les sorties de délinquance sont multifactorielles. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on s'arrête? Ça peut être, ça a été dit, l'accès à l'emploi. Une des grandes difficultés aujourd'hui pour les jeunes, à la différence des jeunes des années 50, 60, 70, c'est que l'accès à l'emploi est extrêmement compliqué, mais c'est un élément de sortie de la délinquance. Certains sortent de la délinquance parce que le travail éducatif a fonctionné. D'autres sortent de la délinquance parce qu'ils ont rencontré l'âme sœur. Lui, il a multifactoriel, rencontrer l'âme sœur et le boulot.
Alors j'ai posé la question sur le casier judiciaire à Mamadou qui nous a appelé. Est-ce qu'il y a eu un durcissement du fichage à l'encontre des mineurs?
Le problème, c'est que même s'ils sortent de la délinquance, il y a un certain nombre de fichiers qui les maintiennent durablement inscrits. Alors le casier judiciaire, avant les années 2002, année Sarkozy, s'efface automatiquement en 18 ans. Maintenant, ça reste pendant 3 ans, même pour des réponses éducatives soft. Donc inscrit au casier judiciaire. Et puis il y a tous les fichiers de police, en particulier le TAJ, qui en matière d'accès à l'emploi va poser d'énormes difficultés.
C'est le traitement des antécédents judiciaires.
Va poser d'énormes difficultés pour un certain nombre de métiers, les métiers de la sécurité, tous les métiers avec accréditation, etc., etc. Donc même si les gamins sortent de la délinquance, historiquement, l'ordonnance de 1945, on redémarrait les compteurs à 0 à 18 ans. Aujourd'hui, ils peuvent être inscrits dans une dizaine de fichiers différents qui peuvent poser d'énormes difficultés sur leur insertion professionnelle.
Vous préparez un livre sur les fichiers d'ailleurs, il faudra revenir nous en parler. Merci en tout cas à vous tous, Laurent Richard, juge des enfants, Christophe Dahadouche, formateur, Renaud Deyer de la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, et Gérard Mauger, sociologue. Merci également à l'équipe. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera de la mémoire, comment apprendre à bien utiliser la mémorisation, et bien évidemment, l'émission est interactive comme chaque jour. Merci à vous tous de votre fidélité. À demain.